Elle, c'est Najomi, fondatrice de Nageco, une agence créative de branding et création web. Avec son équipe, elle illustre l'expertise de ses clients.
Lui, c'est Maxime, cofondateur de Satellite WP, un service d'expert dédié à WordPress, la plateforme la plus utilisée pour créer un site web. Son quotidien se résume à automatisation, sécurité et performance web.
On aime nos entreprises, on aime les défis et on veut progresser.
Si toi aussi tu veux t'améliorer et devenir une meilleure version de toi-même, t'es au bon endroit.
C'est pour cette raison qu'on a lancé
Aucun hasard!
Bienvenue à Aucun hasard, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunités, de réussite et d'échecs.
On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast.
Avant de débuter, sachez que l'épisode d'aujourd'hui est présenté par Nageco. Si vous êtes à la recherche de gens créatifs pour vous aider avec votre branding et la création de votre site web, ce sont les bonnes personnes pour vous aider. Visitez leur site web, nageco.ca.
L'épisode est également présenté par Satellite WP. Leur équipe d'experts peut vous accompagner avec l'entretien, la réparation ou l'amélioration de votre site web WordPress. Visitez satellitewp.com. Satellite WP, vos experts WordPress.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un ami dont la petite vie paisible a pris un sérieux tournant à l'été 2017. Nouvellement à la tête de l'entreprise familiale et père de deux enfants, c'est un sérieux wake-up call que la vie a mis sur son chemin.
Sachant pas trop comment faire face à tout ça, il s'est laissé guider de manière à attaquer son épreuve comme un gladiateur et non comme une victime. Alexandre Raymond, bienvenue à Aucun hasard.
Hey, merci beaucoup.
Alex, on fera pas comme si on se connaissait pas. On se connaît depuis un bon moment déjà. On s'est rencontrés, on allait tous les deux au Collège Laval, on s'est rencontrés en secondaire 2.
Yes, yes.
Lors d'un voyage à Toronto. Et depuis ce temps-là, on s'est jamais perdu de vue. Non. On est allé au cégep ensemble, puis on a gardé cette belle amitié-là. Puis j'aimerais ça que, pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, que tu nous fasses un petit peu la synthèse là, de ton parcours pour pouvoir situer l'action avant d'entrer dans le vif du sujet.
Ouais, ben avec plaisir. Ça fait vraiment un plaisir d'être avec vous d'ailleurs aujourd'hui. Fait que parcours, donc 37 ans, un gars ben sportif, impliqué dans différentes causes. Toujours un intérêt pour la gestion. Donc je me suis lancé background ressources humaines, travaillé en consultation. Eu la chance de voyager à travers cette expérience-là, donc travailler dans différents pays avec différentes personnes, bien intéressant. En 2009, je joins l'entreprise familiale. Donc, mon père toujours était en recrutement de cadre. On se courtisait, même père-fils, disait comme ça, tente-tu, comment qu'on ferait ça? Finalement, ça fonctionne. Donc, en 2009, je joins l'entreprise. Puis, moi, mon apport là-dedans, en voyageant justement, puis en découvrant d'autres horizons à l'extérieur, moi, j'amenais une pratique qui n'avait pas encore développée, qui était le recrutement de cadres, mais en philanthropie, donc pour les OSBL, pour l'associatif et autres. Donc, ça a été mon apport au sein de la firme. Je suis devenu aussi président de la Jeune Chambre de commerce en 2012, donc qui m'a donné beaucoup, m'a permis d'ouvrir le réseau, puis de connaître beaucoup de personnes là-dedans, puis bien m'investir dans l'entreprise.
Puis juste une petite parenthèse, tu parles de philanthropie, ça vient d'où? Pourquoi avoir amené ça? C'est ton intérêt vers la philanthropie, c'est quoi exactement? Comment ça arrive dans ta vie, puis pourquoi cette branche-là?
Ben comme on dit, aucun hasard, ça a l'air. Donc, on voyage, je croise des gens à l'aéroport, dans les avions, parce que je voyageais beaucoup dans mon ancien travail. Puis, il y a quelqu'un qui me parle, puis dit, ben moi, je travaille, je suis consultant en philanthropie. Je dis, c'est quoi ça? Fait qu'il dit, moi, j'aide des universités américaines, je travaille beaucoup en Amérique du Sud pour faire des levées de fonds pour pouvoir qu'ils puissent se financer. Donc, des modèles beaucoup plus avancés peut-être qu'au Québec, qu'au Canada. Fait qu'il me parle de ça. Il dit, justement, il y a un certificat en gestion philanthropique qui va se lancer à l'Université de Montréal. Si tu devrais aller le suivre, c'est super intéressant. Fait que je me rends compte que cette personne-là est le PDG d'une importante entreprise canadienne en le PDG canadien d'une entreprise en gestion philanthropique, donc en développement de fonds. Fait qu'on se lie d'amitié, il me présente des gens dans le milieu, puis je lui parle justement qu'éventuellement j'aimerais ça joindre l'entreprise de mon père. Il dit, ben il y a peu de monde qui s'intéresse au recrutement de cadres en philanthropie à Montréal. Je pense que c'est un beau créneau. Fait qu'on garde ça, puis c'est comme ça. Donc, je m'inscris réellement au certificat en gestion philanthropique. Je me lance, je m'investis là-dedans, puis j'ai vraiment un coup de cœur là, pour ce milieu-là. Donc,
je pensais pas apprendre quelque chose sur toi aussi rapidement voilà. Dans le podcast.
Ah, ça débloque vite.
C'est pas tout, Maxime.
Non, mais tu sais, des fois, on jase puis on n'a pas toujours pas l'opportunité, mais on creuse pas nécessairement un sujet comme ça. Je savais pas que t'avais rencontré quelqu'un dans un aéroport puis que c'est ça qui avait comme déclenché tout le reste.
Puis avant, t'étais dans le même domaine? Tu faisais quoi?
Non, avant, j'étais consultant pour des systèmes SAP. Donc, pour les modules ressources humaines, vraiment, parce que j'ai un bac en gestion industrielle, relations industrielles, pardon. Puis, c'est ça. Donc, consultant SAP, on implantait la base de données au sein d'un client important mondialement. Donc, moi, je me suis découvert une expertise là-dedans. Je pense que quand tu commence à connaître un peu le produit, ben ça te permet, font confiance. Fait que moi, je me promenais, j'étais allé travailler en Turquie, j'étais allé au Brésil, j'étais au Mexique, j'étais basé à Ottawa et Toronto notamment, donc ça me permettait là, de voyager, connaître aussi différents modèles d'affaires à l'extérieur du Canada, donc notamment en Turquie, donc c'était une autre façon de voir les ressources humaines, le service militaire, il y a toutes sortes de choses là, qui doit être considéré. Fait que c'est ça, c'est arrivé.
C'est quand même un gros changement, tu sais, de direction, dans le fond, de parce que SAP, c'est vraiment du logiciel, là, dans
le fond. C'est du logiciel, oui.
Fait que c'est quand même différent de
recruter en philanthropie.
Oui, c'est ça.
Pas du recrutement, oui. Ben, moi, j'ai toujours abordé la notion de consultant. Donc, j'étais consultant, le métier de consultant, je l'ai appris avec l'entreprise qui desservait SAP. Puis donc, ça a été ma trame, donc comment être avec le client, comment gérer le client, gérer ses attentes, l'écoute, prendre ses besoins, puis amener un apport aussi en tant que consultant. Puis c'est sûr que veux, veux pas, ben mon père a toujours fait ça. Donc, ton père arrive à la maison, il te raconte sa journée. Donc, moi, j'avais déjà un peu une idée de ce que c'était là, le recrutement de cadre, puis voir les enjeux, puis comment pourrait être ma contribution. Puis là, je me disais, wow, faire équipe un jour avec mon père, ça serait incroyable. Donc, tout ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais se bâtit. Puis finalement, ben moi, l'important là-dedans, c'est quand j'ai joint l'organisation de Jean, qui est mon père, je disais, tu sais, je voulais avoir une contribution, justement. Je voulais pas être le fils de, mais je voulais dire, regarde, Alexandre, il amène ça, puis voici mon apport, puis avoir une légitimité, puis une crédibilité aussi. Fait que c'est comme ça que je l'ai trouvé, bien que on a élargi, évidemment, Montréal étant petit, donc je fais pas juste de ça, puis j'ai pas juste fait ça non plus avec Jean, mais c'était mon apport, puis aujourd'hui, ben ça a été, c'est encore, ça se poursuit, là, cette connaissance-là du marché, puis cet intérêt-là là, pour le marché.
Fait que tu joins l'entreprise familiale, en tranquillement, tu t'intéresses à la philanthropie de manière plus officielle, t'intègres ça. Tu dis en 2012, tu deviens président de la jeune chambre de commerce, 30 ans à peu près jour pour jour, après que ton père ait été président aussi de la jeune chambre de commerce. Puis là, tranquillement, tu fais tes...
C'est wow!
C'est la première fois puis la seule fois que c'est arrivé à date. Là, pour la
chambre. C'est vraiment hot!
Puis là, tranquillement, t'intègres cette pratique-là de recrutement de cadres dans le domaine de la philanthropie à même l'organisation. Mm. T'évolues là-dedans. Puis à un moment donné, j'imagine, se passe un début de discussion pour, j'imagine, reprendre l'entreprise.
Ouais,
ultimement.
Effectivement, donc on commence à discuter de tout ça, puis tranquillement, ben c'est sûr, je développe ma crédibilité parce que génère aussi des revenus au sein de l'organisation. On fait une belle équipe, Jean et moi, on bâtit, j'exprime mon intérêt, puis Jean était correct là-dedans ou qui m'a amené tranquillement à l'actionnariat, donc qui était partiel et graduel tout au long des années pour pouvoir transférer tranquillement à l'organisation. Moi, parallèle à ça, peut-être l'année en 2013, je décide de fonder un groupe qui s'appelle le groupe de la relève en famille et en affaires avec deux autres personnes pour justement nous aider dans le transfert. Donc, je me rends compte que le transfert en entreprise familiale n'est pas évident. Il y a des enjeux majeurs qui, juste au niveau de la communication, par exemple, comment on amorce tout ça. Ça se passe quand même bien avec mon père, mais je m'aperçois qu'il y a d'autres mondes qui vivent aussi cette situation-là, puis qu'on a des enjeux peut-être différents des entrepreneurs qui n'ont pas de lien nécessairement familial. Ouais. Donc, je crée ça.
Prenons le temps d'en parler. Groupe La Relève, tu lances ça. Comment ça aide les gens? Ça aide qui exactement? Fais-nous la petite plug de ce groupe-là qui est que quand on n'est pas dans une entreprise familiale, pas vraiment conscience, comme tu le mentionnes, de c'est quoi les défis qui sont particuliers à ça. Donc, c'est quoi le... Je t'écoute par rapport à ça.
Groupe de la relève, c'est la chance de te retrouver avec un groupe de 20 personnes, c'est des cellules régionales qui vivent la même situation que toi. Donc, qui sont identifiés comme la relève de l'entreprise familiale puis qui vivent des enjeux dans leur transfert de l'entreprise familiale. Donc, c'est des gens qui occupent différents secteurs d'activité, qui échangent sur eux leur réalité, mais en plus qu'à chaque mois, ils se voient, ils se rencontrent. Puis, ils ont la chance d'avoir soit de la formation ou écouter un conférencier qui a déjà vécu l'entreprise familiale, que ce soit un des fondateurs, une relève. Il y a toutes sortes de cas qui ont vécu des enjeux majeurs là-dedans. Donc, c'est un partage, donc une façon de se rassembler puis se voir. Puis, nous, les commentaires les plus porteurs, c'est de dire « Wow, je savais pas qu'il y avait d'autres mondes qui étaient dans ma situation, qui vivaient ça. Je pensais que j'étais la seule personne qui vivait ces enjeux-là avec mon père, ma mère, avec mes sœurs, mes frères, mes cousins. » Donc là, ça s'ouvre. Puis on a structuré ça. Donc, c'était très informel au départ. Puis finalement, on a vu un besoin. Donc, on s'est regroupé un premier groupe de 20 personnes. Puis par la suite, on a étendu le modèle. On avait différentes demandes. Puis on se dit « Ah non, on veut vraiment rester 20. » Fait qu'on va créer d'autres cellules. Puis aujourd'hui, le groupe de la relève, ben c'est plus de 100-120 membres à travers le Québec. C'est donc des cellules qui se voient chaque mois. Un super beau réseau qui a une belle crédibilité aussi. On est un peu une courroie du transfert d'entreprise familiale, donc on n'est pas compétiteur avec personne. On est capable de bien se positionner dans le milieu pour faire des alliances avec le HEC notamment, avec d'autres entreprises qui ont à cœur la relève de l'entreprise familiale. Puis donc des partenaires, on devient un acteur intéressant dans le milieu.
Jusqu'à quel point les parents ou le reste de la famille est impliqué? Je semble comprendre que c'est le jeune qui va reprendre l'entreprise familiale à qui c'est plus destiné, mais est-ce que ton père, est-ce qu'il allait dans ces rencontres-là? Jusqu'à quel point il est impliqué ou pas dans la façon de que fonctionne la relève?
Sont pas très impliqués. On leur permet une soirée dans l'année, notamment, qui s'appelle le party de famille qu'on a créé. Donc, on s'est dit, on faudrait faire un événement annuel, puis quoi de mieux qu'un party de famille comme on les connaît, donc se rassembler tout le monde ensemble. Ça se passe d'ailleurs pour cette année à la fin du mois de novembre. Donc là, à ce moment-là, sont invités toute la famille qui travaille avec le releveur, la relève, se joint. On invite des conférenciers de marque à ce moment-là pour... justement, donc, permettre aux gens de se parler, se connaître, puis aussi écouter une famille importante. Donc, on a eu les Molson, on a eu les Saputo, on a eu les Germain, on a eu les gens de Transcontinental, les Marcoux. Donc, c'est intéressant. Donc là, c'est notre soirée de dire « Ah oui, ben là, tu sais, des fois, les gens parlent de leur père, leur mère, de, ah, OK, ça me fait... » Fait que là, on fait des liens, puis là, ouais, c'est ça.
Parce que c'est déjà une dynamique familiale, ça peut ne pas être facile, mais en plus, quand t'embarques la business là-dedans, ça doit être excessivement challengeant, justement, de bien communiquer quand t'as tout cet historique-là avec ton père, ta mère. Je veux dire, je travaille avec ma mère, puis... ça va super bien, mais des fois, il veut pas, notre historique, ça fait 31 ans que c'est ma mère, ben,
ça reste
ma mère, même si je suis sa bosse, tu sais.
Ouais.
Fait que je l'écoute quand même.
C'est clair.
Fait que tu sais, c'est comme, il y a des dynamiques, tu sais, déjà difficiles, fait que je trouve ça vraiment intéressant que... Ça existe-tu, ce genre d'affaires-là, aussi, pour des conjoints, conjointes? Des partners, de même? Ben, ça aussi, ça doit être un défi, comme...
Ah, tu veux dire, c'est mettons, juste... les partenaires en affaires.
Ouais, en affaires, un couple en affaires, là. Aïe, aïe, ça doit être vraiment challengeant aussi, là.
Je veux dire, j'ai aucune idée, n'étant pas dans cette situation-là, non, mais je pense que ça ferait autant de sens, là.
T'sais. Ben, vraiment, vraiment.
Ah oui, je pense que oui. C'est toujours un sujet de dire, une des questions que les gens, des fois, se posent, c'est est-ce que oui ou non, les conjoints-conjoints devraient faire partie de l'entreprise familiale? Parce qu'à partir du moment qu'on amène, ben, faut gérer ça aussi, gérer par rapport aux employés, par rapport au couple. Donc, ça, c'est une question qui brûle les lèvres.
La réponse, c'est quoi?
Ouais, c'est du sur-mesure, mais okay. Ouais, tu vois, une de mes associées dans ce groupe-là, elle, ses parents sont en affaires, donc son partner, se sont divorcés, sont restés partner. Wow. Mais, donc, tu sais, tout ça a été géré. Fait que...
Deux enfants travaillent.
Les deux enfants travaillent.
Dans l'entreprise chapeau, familiale ouais, ouais, à reprendre.
Ça, là, la belle maturité, là. Ouais, j'adore.
Ouais. Non, c'est beaucoup de communication, j'imagine.
Hey.
Ouais, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer comme derrière les fameuses portes closes là, que tu dis. Tu sais, en temps normal, tu n'aurais peut-être pas ces discussions-là, mais parce que c'est de la famille, tu sais, c'est mal... Tu sais, quand tu as une situation qui est problématique... Tu peux pas juste dire, ben regarde, on va terminer ton contrat puis ça vient de s'éteindre. Il y a comme une espèce de... Une situation qui est particulière que malheureusement, si tu termines cette relation-là, ça termine pas la relation au sens large. Alors, j'imagine qu'avant d'en arriver là, il doit y avoir une foule de questionnements auxquels on fait face puis on doit répondre. Puis c'est un peu l'objectif de la relève de voir okay, comment on gère tout ça, là?
Ah oui, puis pas de prendre de décision le dimanche soir au souper. Tu sais, il y a quand même d'autres employés. Est-ce qu'on a, on se fait-tu un comité de famille, un comité aviseur? On a fait-tu, des fois, son deux frères ou frères-sœurs, puis ils veulent accéder au poste de décision? Est-ce qu'on croit à la coprésidence ou on doit tout de suite essayer de faire un processus pour voir qui occuperait le meilleur poste? Il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Puis les entreprises familiales au Québec... Selon plusieurs données, ça peut composer plus de 70% là, de notre du marché corporatif. Là. Donc c'est important, ça fait partie de notre économie, énorme, notre ADN. Ouais. Ouais, ouais.
C'est vraiment beau, moi j'adore ça. Là. Moi j'espère que mon legacy ce soit ma business, puis que genre les enfants, mon chum qui embarquent, puis que mon chum un jour, tu sais, comme c'est vraiment mon souhait. Là. Je vais pas forcer personne, mais aujourd'hui, c'est beau.
Non, mais aujourd'hui, tu dis ça, mais je pense que, tu sais, il y a autant quelque chose de beau, mais je pense que comme dans n'importe quoi, il y a un double tranchant. Là, c'est
pas
c'est
noir
le fun.
Ou blanc, là. Tu sais, il y a plein de zones grises, puis ça, tu sais, ça doit être vraiment difficile. Puis ton père, ça a bien été, il l'a bien vécu pour lui, ou c'était plus difficile?
J'imagine que c'est jamais facile, tu sais, de comme.
Mais ça va dépendre de la personne, parce que, tu sais, il y en a qui bâtissent une business parce qu'ils veulent pouvoir laisser quelque chose à leur famille, ouais. Tu sais. Mm-hmm. Fait que, dans le fond, c'est comme l'objectif de quasiment, tu sais.
J'ai l'impression que c'est puis tu pourras bonifier là-dessus. J'ai l'impression que c'est la fameuse passation de manière officielle, puis le retrait progressif qui doit être l'enjeu majeur d'à peu près tous les releveurs, comme t'as dit tantôt.
Moi, ouais, c'est surtout, je pense, l'amorce aussi, parce que l'amorce devient juste d'ouvrir le sujet pour certains, c'est un enjeu majeur. Parce que eux, c'est leur vie. Là. On ne dit plus être une vie personnelle ou une vie d'entreprise. Eux, c'est ensemble. C'est ça qu'ils ont fait toutes les années. Ils se sont battus. Ils ont créé ça. Tu sais, c'est des fondateurs. Souvent, des fois, ils ont une certaine reprise des grands-parents. Donc, pour eux, c'est quasiment un deuil. Là. Donc, d'amorcer ça, puis de commencer à le prévoir, puis je pense faut le truc c'est d'y aller par étapes, de pas faire une coupure, mais de justement essayer de le planifier. Puis ça, c'est le plus gros enjeu, puis l'enjeu d'entrepreneur, là, planifier. Quel mot c'est quoi ce mot-là, tu sais? Fait que c'est un processus. Puis eux, faut savoir aussi qu'ils ont tout investi, donc leur fonds de retraite est dans l'entreprise. Fait que là, c'est beau. C'est beau les idées, puis l'innovation, le développement, mais moi, je vais prendre ma retraite. Là,
ouais.
T'sais, fait
ouais,
que,
ouais.
Il y a ce côté-là aussi là qui peut ressurgir. Fait que c'est beaucoup de choses ensemble, là, relations personnelles, père, mère-fille, le financement. Donc là, on mêle tout ça ensemble, puis il faut le gérer. Puis je pense que c'est ça le plus gros enjeu, les gens le laissent aller, attendent, puis maintenant, pas qu'il est trop tard, mais le temps qu'on pouvait se donner au départ est rendu beaucoup plus
court. La marge devient haute.
Oui, la marge devient haute, oui. Je pense que c'est une bonne façon de le dire. Donc, ça devient un enjeu majeur. Là.
Fait que tu lances ce groupe-là, t'amorces la discussion avec ton père,
oui.
Tu rentres dans le processus d'actionnariat tranquillement, tu prends, j'imagine, un peu plus de pouvoir, si on peut dire, mm-hmm. de responsabilité, ça évolue, l'objectif étant de t'amener à reprendre l'entreprise, ce que tu réussis à faire dans les années qui vont suivre.
Exact. Donc, en 2016, on le positionne un peu plus officiellement, puis on reconnaît, moi et Jean, là, que c'est la passation, puis on s'organise en ce sens-là. Donc, ça me permet, bon, ben c'est ça, tranquillement de prendre certaines décisions qui étaient peut-être différentes de celles que Jean aurait prises, bien qu'on se consulte, on continue à se parler beaucoup. Je pense que ça a été la clé là-dedans. Mais ça me permet, bon, d'établir un peu plus mon plan de match, puis de voir... voir aux prochaines années aussi. Donc, ça a été un moment assez marquant là, pour nous.
Puis c'est en 2016, octobre 2016, que officiellement, si on peut dire, la je sais pas si on dit la transaction finale ou le que ce produit et que tu prends le contrôle. Rapidement, toi, ça faisait plusieurs années que tu pensais à, évidemment, à ça. Puis, tu t'étais dit, qu'une fois que tu reprendrais l'entreprise, c'est important pour toi d'être en santé. Mm-hmm. Puis là, t'as comme une responsabilité soudaine qui est un peu différente. T'as des responsabilités face aux gens qui travaillent pour l'organisation, face à aussi, mettons, ton père de poursuivre ça, puis tout ça. Puis toi, tu te dis, pour pouvoir accomplir tout ça, je dois être en santé. Parle-moi un peu de ce processus-là, de comment c'est venu dans ta tête pour justement te rendre jusqu'à ton rendez-vous médical, là, disons ça comme ça.
Ouais, donc ben moi effectivement on fait du sport, je me maintiens, donc je veux un équilibre, je veux que ça soit c'est ça, autant personnellement que professionnellement, ben que je sois A1 puis l'entreprise va très bien, puis on avance, puis je parle avec ma coordonnatrice à ce moment-là, peut-être mois de juin, quelque chose à dire. Alexandre, l'entreprise va bien, on a mis en place nos projets, ça se passe, elle dit, garde-toi donc, tu sais, paye-toi quelque chose, là, que t'aimerais. Puis je dis, écoute, je suis bien, j'ai rien besoin, là, ma satisfaction, je vais le chercher, ben, tu sais, avec le travail, tout ce qu'on a accompli, mais moi, la santé, ça a toujours été une de mes priorités, faire du sport, bien m'alimenter. Puis nous, dans nos processus, souvent, on envoie certaines personnes en clinique privée pour un examen médical pour s'assurer justement que tout se passe bien. Puis que, donc, je me disais, je pense que je vais me payer ça. Donc, ça me tenterait, ça me donnerait un beau bilan de où j'en suis. Puis moi, il faut savoir que j'ai juste un rein. Donc, à la naissance, donc je me suis fait enlever mon rein gauche. Fait que je suis quand même suivi par une équipe, mais plus au niveau qui focus sur mon rein. Fait que je me dis, comme ça va me donner le bilan complet. Là-dedans, il y a toute la gamme d'analyse. Fait que je dis, écoute, book-moi ça, je vais aller là. Tu sais? Fait que elle dit, parfait, c'est une super bonne idée. Fait qu'on prend le rendez-vous médical à ce moment-là. C'est ça. Fait que
tu fais, dans le fond, tout ce rendez-vous-là, où est-ce que tu as toutes les analyses, puis tout ça. Quelques temps après, tu m'invites, tu nous invites à aller bruncher chez vous un dimanche avec d'autres amis. On a un super brunch, les enfants jouent ensemble, ça va super bien, on a du plaisir. Puis, au moment où j'arrive pour quitter... J'étais en train de strapper mon gars dans son banc. Puis là, tu me prends à part. Puis là, tu me lances la fameuse bombe. La semaine d'avant, tu avais reçu les fameux résultats de toutes ces analyses-là. Puis là, on t'a appris que tu as une masse sur un rein.
Ouais, exact. Dans le fond, quand je me suis pointé à ce rendez-vous-là, qui était probablement le jeudi avant notre fameux brunch. Je sais, moi, mon rein, il est plus gros que la normale. Tu sais, il a pris la place parce que plus jeune, ça a permis justement de le développer et tout ça. Fait que je vais au rendez-vous médical, j'arrive au test échographie, je rencontre le médecin, puis je le vois, là, tu sais, qu'il repasse, puis là, il dit, tourne-toi de bord, tu vas-tu uriner la nuit? Je dis, il doit être impressionné par mon rein, tu sais, il est comme... Ouais, c'est sûr que c'est la première fois que tu manges un rein.
Il doit vraiment être impressionné.
Fait que là, il dit, ouais. Il dit, attends-moi une minute, puis il va chercher le médecin. Puis le médecin me fait venir dans son bureau, il dit, ouais, il dit, Alex, je pense, il dit, you have the best worst case scenario, mais il faut que je te dise que t'as une masse sur ton rein. Puis c'est pas, ça n'a pas une forme normale, nécessairement. Fait que... Le best worst case scenario, c'est que la masse était sur le dos du rein et non dans les filtres. Donc, il y a des filtres à l'intérieur du rein, puis que ça, souvent, ça se propage dans le reste de ton système, tu sais. Fait que là, tu sais, quand on se rappelle l'annonce que, en tout cas, quand les gens apprennent qu'ils ont le cancer, là, qu'ils se font comme aspirer par en arrière, puis là, j'ai un peu étourdi, puis je suis comme, je pense que je comprends pas ce que tu me dis. Fait que là, je repars finalement, effectivement, à la maison, au bureau. Puis là, c'est là que s'enclenche le processus où que là, je dis « wow ». Je tombe un peu plus en mode survie. Je commence à appeler ma néphrologue. Puis là, je suis là-dedans. Puis donc, je dis « ah bon, il y avait un brunch ce week-end-là, comme Maxime l'a dit. » Puis je sais que Maxime, moi, j'ai toujours tout dit. On a une super relation, pas de cachette. Pas de jugement, fait que je dis ouais, crime, faut, ça me prend une soupape de sortie, là, faut que je commence à en parler, faut que je me fasse une tête là-dessus, fait que je sais pas quand l'aborder, puis fait que là, effectivement, dans le stationnement était le meilleur moment pour moi, j'imagine. Fait que je dis à Maxime, écoute, tu sais, j'ai ça, fait que ça a été ma façon de m'y prendre, mais c'est ça.
C'est drôle parce que, mettons, j'ai souvent pensé, après cet épisode-là, au fameux brunch que moi, je me rappelle qu'on avait eu bien du fun.
Ouais.
Puis je me disais, j'imagine que t'avais eu aucun fun à ce brunch-là, à juste penser à... Tu sais, parce que, mettons, moi, pendant tout le brunch, je suis pas au courant de ce qui s'en vient, tu sais. Alors que toi, mettons, j'imagine... C'est plus, t'attends juste le bon moment pour le dire, puis quand un moment donné, on est rendu dans le parking pendant que je suis en train d'attacher mon gars, on a comme pas mal stretché l'élastique, puis là, on est rendu en mode, c'est quoi le meilleur temps, c'est qu'est-ce qui me reste comme temps avant qu'il s'en aille pour y dire.
Ouais.
À partir de ce moment-là, ceux qui écoutent Aucun hasard depuis un bon moment savent que j'ai fait Tony Robbins, en fait, cette année-là. Puis au moment où Alex m'annonce ça, je suis un peu shaky. Puis là, tu m'annonces, dans le fond, que va falloir que tu ailles faire un scan plus approfondi,
mm-hmm.
puis que ça va avoir lieu là, sous peu. Moi, dans ma tête, avec mon raisonnement de genre, là, je suis en mode mindset, puis en mode, faut comme se crinquer à espèce de créer un événement mental où on laissera pas cet événement-là se prendre, dans le fond, l'emprise sur nous. Je le rappelle, t'as juste un rein, fait que si t'as une masse sur un rein puis que ultimement on finit par te l'enlever, ben là, ça vient avec de lourdes conséquences pour peut-être pas le reste de ta vie, mais du moins les prochaines années. Alors, le lendemain, je t'envoie le premier d'une longue série de messages textes où dans le fond, moi, j'ai décidé à ce moment-là que j'allais prendre un peu la situation, pas la situation en main, mais que j'allais t'accompagner puis de faire tout ce que je pouvais pour rendre cet événement-là, te faire passer, comme on disait dans l'intro, là, de victime à gladiateur. Puis tout ça, dans le fond, tout ce que j'ai appliqué pendant les mois qui ont suivi viennent de justement l'expérience que j'avais vécue à Tony Robbins. Puis je me dis, OK, c'est facile de dire, mais pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça? Mais ça nous avancera pas dans le processus. Donc, je t'envoie ce premier message-là où je te dis, écoute Alex, on va aller se battre ensemble, puis on va faire ce qu'il faut. puis inquiète-toi pas, ça va bien aller, fais juste suivre, suis-moi, puis on y va ensemble. Puis tu avais décidé à ce moment-là de juste te laisser aller, puis de dire, faut que ma game mentale soit au top, puis c'est comme ça qu'à ce moment-là, on a amorcé ce processus-là. Mm. Plusieurs messages textes, des fois plusieurs par jour. Je tente à tous les jours de mettre du positif dans cette aventure-là que j'ai aucune idée où on s'en va, mais je me dis, si moi je peux être le capitaine qui garde le focus pendant que lui essaye juste de faire sa journée, ben j'essaye de faire ça. T'as ton scan qui a lieu, c'était la semaine suivante.
Mm-hmm.
Puis moi je me rappelle, je t'avais encouragé à commencer à en parler. Parce que tu sais, on a souvent l'impression, puis tu l'as dit tantôt quand tu as parlé de la relève, on a souvent l'impression qu'on est tout seul dans ce qu'on vit, puis que la terre arrête juste pour nous alors que tout va bien pour les autres. Quelques jours plus tard, tu avais décidé d'aller jouer au golf. Je sais pas si tu te souviens.
Oui, tout à fait.
Puis tu as décidé d'en parler à quelqu'un qui était, je crois, sur ton foursome. Te rappelles-tu de cette discussion-là que tu avais eue avec cette personne-là? Que lui avait un truc dans ses poches. Fait que je te laisse. Ouais.
Non, je pense que c'est ça qui arrive que effectivement, je me rappelle d'avoir parlé à cette personne-là qu'on a gardé contact d'ailleurs. Puis lui vit d'autres types de problèmes de santé. Mais moi, ce qui m'avait à ce moment-là surpris, c'est de dire, je pense qu'on a tous quelque chose. On va tous avoir quelque chose à un certain moment. Puis quand tu commences à ouvrir, puis vouloir en discuter, ben les gens aussi décident de s'ouvrir puis d'en discuter. Puis lui, en fait, aussi a un seul rein, fait du diabète, donc d'autres enjeux qu'il doit gérer lui aussi de son côté, puis qui garde quand même le cap, qui a passé lui aussi un épisode de cancer, puis qui aujourd'hui est en bonne santé, puis vit super bien. Mais tout ça pour dire que moi, quand j'ai commencé à décider d'en parler, puis d'ouvrir, j'ai eu plein de messages, puis de gens que hey, moi aussi, moi mon rein, telle affaire, moi le cœur, ou moi mon ami a eu le cancer. Puis ça, je pense c'est la vraie vie, là, parce que nous, on rentre au bureau, ou bien on fait nos choses, on se parle de toutes sortes de choses bien le fun, mais en arrière de tout ça, on vit des choses qui sont très humaines, qui sont en fait la vraie vie, que pas toujours facile, qu'on a des enjeux, là on parle médical, mais on peut avoir des enjeux avec les enfants, on peut avoir, puis je pense que c'est ça la vraie vie, là. Puis c'est là que tu rentres dans les vraies conversations, que tu départages tes vrais amis, que tu dis, OK, regarde, on va se parler des vraies affaires, là. Puis moi, c'est ça, je vis, je deal de même, toi, qu'est-ce que t'en penses? Puis, fait que ça nous permet de se remettre les pieds sur terre, puis de commencer à vivre, puis de parler des vraies choses. Puis ça fait, c'est une grosse intensité, faut être prêt. Puis comme moi, à un certain moment, Maxime me textait ces choses-là, puis je disais, ah, c'est le fun, tu sais, des vidéos YouTube, c'est... Non. Là, puis là, maintenant, j'ai clutché, puis j'ai dit, OK, non. Puis j'ai commencé à croire. Puis il faut le croire. Puis des fois, ça semble très... À un certain niveau, quand t'es pas confronté à la maladie, Mais quand tu décides de t'investir comme ça, puis tu dis, regarde, j'embarque, puis j'y vais à fond. Alors, on devient... Il y a un niveau d'énergie, il y a un côté, c'est de gérer ton esprit, en quelque sorte, de se dire, non, on va pas là, c'est par là qu'on s'en va. Puis c'est toi qui décides. Wow, c'est tout qu'un bon sentiment, puis tu prends contrôle sur toi, sur ta situation. Ouais, fait que c'est d'autres choses.
Quand tu sais, comme dans ton quotidien, quand tu sentais justement le switch de genre, OK, non, là, c'est je m'en vais pas là, je m'en vais par là, c'est quoi comme au quotidien que ça change?
Ben, ça change tout, là, parce que tu peux t'en faire pendant tout le temps, en fait, puis c'est gérer. Au début, c'était gérer l'incertitude, parce que avant que j'aie des résultats, des premiers scans, des résonances, c'est dire, premièrement, je sais pas, j'ai-tu le cancer? Je sais pas. Est-ce que mon cancer est répandu? Je sais pas. Là, tu regardes tes enfants, moi, j'ai deux enfants en bas âge. Là, tu dis, OK, est-ce que ça se finit? C'est de même que ça va finir, là? Ou ça va continuer? Fait que là, puis là, tu vis là quand même, tu vis au jour le jour.
Oui,
je travaille,
job,
là, là, oui. J'ai une compagnie, là, puis j'ai, oui.
Tu sais,
j'ai
avec j'ai un prêt à rembourser, puis t'as des gens de qui t'es responsable. Ça va beaucoup plus loin que ta petite, tu sais, entre guillemets, que ta petite personne qui vit cet événement-là, tu sais. Il y a comme un build-up qu'on a essayé de, tu sais, de créer avec autant, mettons, des textes que des chansons, qu'on s'était fait une playlist,
oui, tout à fait,
de choses positives, de vidéos que je t'envoyais à des moments précis. Tu disais tantôt que tu as commencé à t'ouvrir puis à voir des nouvelles choses. Te rappelles-tu, à un moment donné, tu as pris l'ascenseur, puis il y a quelqu'un qui était là,
ouais.
Que, tu sais, mettons, tu parles d'ouverture puis des choses que soudainement se mettent à arriver. Parle-moi de cet événement-là.
Ah oui, là, je suis au début, je commence à parler avec Maxime, puis je me documente. Puis une des choses, ben j'essaie de voir qui a déjà été confronté à un cancer du rein, qui a déjà vécu. Puis, fait que je fais certaines recherches, puis je lisais sur Dominique Arpin. Dominique, qui est un animateur radio, qui fait différentes choses. Puis lui, il l'a vécu. Il l'a appris un peu par accident aussi.
Un grand sportif,
oui. Puis c'est le même. En fait, il est allé uriner. Faisait de l'activité physique à haute intensité. Il allait uriner, il a uriné du sang. Il dit, ça doit être à cause de mon entraînement. Il a parlé à sa conjointe. Il dit, non, c'est pas à cause de ton entraînement. C'est pas normal, ça, là. Finalement, se fait tester, puis effectivement, lui, son cancer était beaucoup plus répandu, une autre forme de cancer autour d'un de ses reins. Fait que tout ça pour dire que j'en parle, puis tout ça. Puis je suis stationné au centre-ville de Montréal, je descends, la porte de l'ascenseur ouvre, puis je tombe face à face avec Dominique Arpin. Puis là, je suis comme, hey, je veux qu'on se parle, faut qu'on se parle. Puis là, il dit, ben oui, il dit, viens. T'sais. Fait que là, on prend une couple de minutes ensemble. Mais Dominique, écoute, j'ai eu un diagnostic. Je sais pas trop quoi faire, comment m'aligner. Toi, comment ça s'est passé? Super ouvert. Écoute, il lui dit comment il l'a géré, quelle est sa vie maintenant aussi, comment il fait pour maintenir le cap. Une belle ouverture, là, franchement. T'es bien, bien généreux de son temps. Fait que puis ça a fait ma journée, puis je dis aïe aïe, wow, incroyable.
Donner un petit boost supplémentaire.
Ouais.
Parce que tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vit des trucs comme ça, là, c'est faut pas essayer de penser à long terme. Mm. Tu sais, parce que c'est ça, je pense, qui à l'époque, tu sais, moi, comme personne qui te soutenait là-dedans, ce que je me rendais compte, c'est à quel point tu regardais tout le temps la finalité.
Mm-hmm.
Alors que moi, ce sur quoi j'essayais de toujours t'amener, c'était le prochain pas. T'sais, concentrons-nous. T'sais, on a un rendez-vous mardi à 8h. Là. Nous autres, notre job, c'est d'être là mardi à 8h.
Mm.
Laisse faire le reste mardi à 8h. Que quand tu focuses sur le prochain pas, puis le prochain pas, puis le prochain pas, ben, tu n'as pas besoin d'essayer d'avoir une vue d'ensemble sur « il me reste 5000 pas, il me reste 10000 pas, puis qu'est-ce qui s'en vient dans 2 semaines, dans 3 semaines? » Parce que je pense que les gens qui vivent ce genre d'épreuve-là, le problème est principalement sur l'espèce de délai. Là. Tu fais un scan, mais tu n'as pas le résultat tout de suite. Puis ça, je dirais pas ça les tue, mais c'est...
Mais c'est l'anticipation, tu sais. C'est le constamment en train d'anticiper comme qu'est-ce qui va arriver plus tard, qu'est-ce qui va se passer, si je suis plus là, qu'est-ce qui arrive. Tu sais, comme l'anticipation, c'est très endommageant.
C'est très tough. Fait que moi, dans le fond, je bâtis toute mon histoire autour de ça à juste focusser sur la prochaine étape. On finit par aller à la première rencontre chez ton médecin.
Ouais.
On t'avait suggéré de y aller accompagner.
Ouais.
Parce que, dans le fond, on fait des scans, on sait pas c'est quoi les résultats.
Mm.
Vas-y pas tout seul.
Mm.
La veille de ton rendez-vous, tu m'appelles, tu me dis « Hey, j'aimerais ça que tu viennes avec moi ». Tout de suite, je te dis, c'est bon, je vais être là demain matin, je vide mon horaire. Dans la soirée, tu me rappelles, tu me dis, hey, finalement, ça sera pas nécessaire. Je vais être capable d'y aller tout seul. Puis j'insiste, puis je suis comme, mais regarde donc. Ça a dû prendre tout son petit change pour m'appeler la première fois. Là, je voyais que, mettons, ton cerveau est en train de te jouer d'un tour, de genre, non, t'es capable de gérer ça tout seul, pas besoin d'y aller.
Mm.
Finalement, le lendemain, on va à ce premier rendez-vous-là où est-ce que, ultimement, le scan ne révèle pas grand-chose.
Non, effectivement. Donc, on s'assoit avec le chirurgien, puis semble ambivalent, on voit pas vraiment. Puis il dit, écoute, je pense qu'il va falloir aller un petit peu plus loin dans les tests. Donc, prévoit une autre batterie de tests, un autre scan. Puis lui, entre-temps, allait parler avec son équipe pour essayer de voir qu'est-ce qui était vraiment... cette masse-là, tu sais. Parce que jusque-là, on sait pas si c'est un cancer, on sait pas si c'est un kiss, une forme qui est bizarre, une composante bizarre aussi. Fait que...
C'est-tu dangereux, ça l'est pas, on le sait pas.
C'est ça.
Puis moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'on sort de ça, puis on a deux attitudes totalement différentes. Alex, qui est un peu détruit, parce que il dit comme crime, on n'a pas pu confirmer que...
On sait pas.
C'est exactement. Alors que moi, je vois ça vraiment positif parce que si on était rentré là puis il avait dit t'as le cancer, ça fait comme j'ai ça fesse. Mais là, comme c'est pas clair encore, ben pour moi, ça se dirige plus vers c'est négatif que c'est positif parce que mais je comprends
totalement. Mais oui, comment, moi aussi, c'est ça, je comprends aussi sent. De pas savoir, tu sais, comme ouais, ça fait exactement. Peur de pas savoir. Là.
Puis là, on se dit, ben là, ça va prendre un scan plus approfondi, puis qu'on aille qu'on aille voir plus loin. Puis je me rends compte qu'Alex, c'est vraiment dur pour lui. Puis à ce moment-là, je t'envoie la vidéo de Tom Brady,
oui,
Super Bowl,
ben oui.
Qui a eu lieu cette année-là où est-ce que son équipe perd 28-3 après, je pense,
troisième quart.
Puis il amorce la plus grande remontée de l'histoire. Ça s'est jamais vu, tu sais. Puis on bâtit ce genre de choses-là jusqu'à temps qu'on arrive au fameux, dans le fond, tu fais les scans, puis on arrive au deuxième rendez-vous où est-ce que là les scans ont vraiment été poussés, puis on va le rencontrer ce matin-là pour avoir, bon, en fond, qu'est-ce qui se passe.
Puis faut savoir que quand Max le dit qu'on va le rencontrer, là, ça a l'air bien ben simple, là, tout ça, mais ça inclut que il me prépare mentalement. Il me dit que ça va bien aller, qu'on a quelque chose à accomplir ce matin. Que dans l'auto, la musique joue dans le tapis, puis que j'ai une playlist, mais c'est pas une playlist de tunes aléatoires, là. C'est des chansons qui sont positives, qui me permettent de se minder. Fait qu'on arrive là, moi, je débarque dans le bureau, là, je suis crinqué, puis je suis prêt, le go, là, tu sais. Puis ça change parce que t'as comme un momentum de toujours être en contrôle, puis de foncer, puis tout ça. Fait que là, effectivement, on s'assoit dans le bureau. Puis le chirurgien dit, écoute, on a fait l'analyse de tout ça, donc j'ai ramené mon équipe autour de ton cas. Fait que il y a deux.
En fait, ils sont cinq dans l'équipe.
Ouais. Donc
quand même important de.
Ils sont cinq dans l'équipe. Puis il dit, ben écoute, moi il y en a deux qui m'ont recommandé d'aller de l'avant avec la chirurgie parce que t'es jeune, t'es en santé, fait que tu vas être capable de bien récupérer. Mais j'en ai deux autres que justement me recommande de pas aller de l'avant avec la chirurgie parce que justement t'es jeune, t'es en santé, puis probablement que ça serait mieux de garder ça sous observation puis de voir qu'est-ce qui va débouler de ça avec des tests un peu plus fréquents.
Parce qu'il y a un risque à faire l'opération.
Ben oui.
Il y a un risque à faire la biopsie. Il y a un risque à tout.
Mais à ce moment-ci, ils savent pas encore.
Non.
C'est quoi?
Non. Il y a une seule façon de le savoir. C'est d'opérer.
Oh
my God. C'est de l'enlever parce que si on fait une biopsie, puis moi, je me rappelle, tu sais, j'étais un analyste, j'étais un gars de chiffres. Il me dit, on peut faire une biopsie, puis que la biopsie revient négative, mais on a quand même 20% des chances qu'on n'ait pas pogné assez de cellules ou de quoi que ce soit, puis que le test soit pas bon. Puis en même temps, quand tu t'en vas faire une biopsie, c'est d'aller prendre un extrait, si on veut, pour le faire analyser. Ben, il y a une chance qu'on prenne un extrait, puis qu'on contamine le reste, puis qu'on répande
la
patente. Alex étant quelqu'un de stressé, pas stressé, mais de, tu sais, comme t'aimes pas ça, vivre avec...
Anxieux.
Ouais, anxieux, peut-être un peu plus, tu sais... Fait que on se tourne vers, parce qu'il y a son cinq dans son équipe. Il y en a deux qui disent on le fait, il y en a deux qui disent on le fait pas.
Lui dit quoi?
Et c'est exactement notre question. Et toi? Et ouais. Alex, c'est lui qui envoie la question. Et toi, si c'était ton enfant, qu'est-ce que tu ferais?
Il a pas voulu répondre. Il dit c'est pas ma décision, c'est ta décision. Puis je pense que c'est aussi de par leur vocation, leur métier, c'est pas eux, là, c'est moi le patient là-dedans. Puis
il n'y a pas de certitude dans rien.
Effectivement.
Mais c'est quand même spécial que les quatre autres, ils se sont prononcés, mais pas lui, tu sais.
Ben, en fait, tu sais, je pense que...
C'est intéressant.
Je pense que c'était... Il y avait autant de raisons de le faire que de pas le faire selon l'angle avec lequel tu
positionnais. Lui aussi, il savait.
Probablement que si, mettons, les quatre avaient dit la même affaire, ils se seraient rangés de leur côté ou que... Ouais. Mais là, ultimement, c'était lui qui devait trancher avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Tu sais, enlever la masse, si finalement ça finit par t'enlève le rein puis que tu te rends compte qu'il y a, mettons, il y a pas de cancer, tu dis, ben crime, on aurait dû la laisser là. Personne le sait à ce moment-là. Fait qu'on discute, on est dans le bureau. Puis toi, tu, on dit qu'est-ce qu'on fait?
Ouais. Fait que je pense qu'on a fait le... Moi, je me souviens que j'ai fait le call, comme on dit. J'ai dit, garde, on y va, là. C'est pas vrai. Pas vrai qu'on va laisser traîner ça. Puis j'étais dans le build-up de régler ça. Puis j'avais pas... puis Max l'a décrit bien, là. Moi, j'ai pas le temps apparemment de rester en deux puis d'essayer de niaiser puis de penser que peut-être que... Non, non, OK. Wow, là. Fait que on y va, puis on se prépare à ça. Fait qu'il dit parfait. Il dit lui, c'est un. Tu sais, c'est un chirurgien très. Il est très, très bon dans ce qu'il fait. Il opère avec un. Maintenant, c'est rendu des robots, donc un robot à Sacré-Cœur. Il dit tu vas être mon premier patient. Il dit je te rappelle pour confirmer le rendez-vous. Il dit on y va, puis moi, je le sens d'attaque. Tu sais, fait qu'on ressort.
Ouais, ouais, on va. Il est confiant.
Là. Il est confiant.
Fait que ça, on est le 17 octobre à ce moment-là. Il te rappelle une ou deux journées plus tard.
Fait qu'il y a une place. Il dit, OK, ça va être le 6 novembre. T'es mon premier patient. Tu vas recevoir toutes les infos pour te préparer. Puis on va le faire. Fait que là, c'est là que tu dis, OK, bon, ben ça arrive. Puis
dans 3 semaines.
C'est dans 3 semaines. Fait que j'ai dit, là, moi, j'ai un voyage de football avec des amis. Il dit, vas-y. Il dit, c'est bien correct. Et je dis, je suis-tu à 100 shape? Il dit, non, non. Il dit, inquiète-toi pas, là. Il dit, tout est correct. Il dit, laisse-moi aller à partir d'ici. Puis, tu sais, prépare-toi. Fais tes choses. Mais tu compliques pas la vie. Là. Fait que c'est ça. Fait que, on décide d'y aller. Puis, moi, ça a été le dernier sprint pour me rendre là qui était une grosse marche. Le lendemain, pratiquement, jour pour jour, ma mère passait certains tests pour un supposé cancer du sein. Puis finalement, effectivement, c'est confirmé. Elle a le cancer du sein. Mais elle n'a pas le cancer du sein à moitié, selon les premières analyses. Fait qu'ils disent, garde, faut qu'on l'opère là, tu sais. Fait que ma soeur est là, par chance. Prends situation en charge. Je texte Max. Tu sais, je pense que je comprends pas ce qui se passe. Tu sais, c'est un peu trop, là. Tu sais, moi, je...
Déjà de te gérer, toi.
Ouais, déjà de me gérer.
Ta business?
Ma entreprise qui parce continue. Que,
on en parle plus, là, ta business. Ouais, c'est ça.
Mais tu sais, on met tout ça en perspective. Là. À ce moment-là, là, on essaye de gérer une situation bien précise qui est le cas d'Alex. Ta mère vit des moments où est-ce que faudrait que tu sois là en soutien, mais que c'est pratiquement impossible parce que juste te gérer toi, c'est déjà quelque chose. Ouais. Puis t'as 3 semaines pour passer, dans le fond, te libérer de ta business parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où il nous dit on va faire l'opération, après ça, quand t'es opéré, t'es 6 semaines out. Pas 6 semaines à genre tu peux faire des courriels. Non, non, tu seras même pas capable de faire des courriels. OK? T'es 6 semaines out. OK? Tu sais, je pense, tu sais, mettons, Alex, là, si je t'avais dit, mettons, avant cet épisode-là, là, hey, l'année prochaine, mettons, là, tu viens d'acheter la business de ton père. L'année prochaine, dans un an, on part, toi puis moi, 4 semaines à faire, mettons, un safari, une place qui a pas d'Internet, qui a rien. Assurément, qu'est-ce que tu m'aurais dit?
Impossible.
Impossible.
Tu as tout le temps dans le jus, tout le temps, tu sais, dire, ah, la misère quasiment à partir pour le week-end. Mais là, tu sais, tu règles.
Ça, c'est un an d'avance. Là, on a 3 semaines pour vider la plate.
Ouais, on rap ça.
Ta mère vit en même temps, genre, la bataille aussi de sa vie.
Ouais.
Puis là, on s'engage dans ce dernier sprint-là où est-ce que tu fais un plan de match. J'aimerais ça savoir comment t'as organisé ces 3 semaines-là pour arriver, tu sais, pouvoir arriver avec quand la journée que je vais aller me faire opérer. tout est vide, tu sais.
Je pense que la première chose que de ce que je me rappelle, c'est que je voulais gérer l'aspect de ma mère. Puis ma sœur a tout, tu sais, tout organisé, était son taxi, puis tout ça. Mais c'est important qu'on passe cette étape-là. Fait qu'elle se fait opérer le lundi suivant, se fait enlever la masse. Les ganglions semblent pas touchés. Puis croyaient que ça pouvait l'être. Fait qu'ils en, je pense qu'ils en ont pris un pour analyse. Elle retourne chez eux. Puis ça se gère bien finalement. Ganglion pas touché. Rémission. Oui, il va y avoir chimio et radio, mais c'est plus positif que le premier diagnostic. Fait que ça c'est OK, ça semble se placer. Puis fait que ça a été une chose. En arrière de ça, je pense que puis il va y avoir sur beaucoup de takeaway de tout ça, mais c'est quelque chose que, autant pour moi que ma mère ou ma situation, c'est quelque chose qui se gagne en équipe. Tu sais, je pense qu'à un certain moment que tu acceptes puis tu dis OK, c'est le temps d'y aller en équipe puis de pas d'y aller à moitié. Fait que Max donne un coup de téléphone à ma mère. J'ai une amie qui me réfère aussi, sa grand-mère qui a été touchée par le cancer. Elle donne un coup de téléphone à ma mère. Donc, beaucoup d'énergie positive aussi pour ma mère. Puis, suite à ça, que ça a été un soulagement. Moi, ma mère demeurait avec ma sœur à l'époque. Elle avait une maison bigénérationnelle. Puis, ils me disent, garde Alex, on va te faire une place au sol. Ça va être là ton temps de récupération. On va t'arranger tout ça. Fait que tout le setup, tu sais, d'être entouré d'une mère et d'une sœur, là, c'est un privilège. Fait que j'ai un super, quasiment un appartement à moi. Puis là, je me décide de se dire, wow, écoute, ça va être le fun. Moi, je vais acheter de la bière pour mes amis. Fait que là, j'achète une case de 24 pour que quand mes amis vont venir me voir, j'achète un Xbox. Je suis pas un joueur de mais je connais deux jeux, un jeu de soccer, puis mon cousin qui joue à un autre jeu, fait qu'il dit OK, je m'achète la console. Fait que je me fais un setup, puis je me dis aïe aïe, ça va être écœurant. Je m'achète des jogging, deux trois paires de jogging. Fait que
prêt
fait
pour
que,
le après.
Fait que là tout mon après c'était. Puis là je me dis OK, ben faut que j'entretienne mon mental, faut que j'entretienne mon physique pour durer jusque là. J'ai un autre ami qui lui était atteint du cancer aussi, qui a eu une rémission, qui s'en est bien sorti. Puis j'ai marché avec lui deux soirées, juste dans le quartier, pour jaser comment que lui avait pris ça, comment qu'il vit avec ça, comment qu'il s'entretient justement le mental. Là, tout le monde parle de ça. Là, comment tu vas pas du mauvais côté. Fait que on a des super belles conversations ensemble. Évidemment, ben j'ai toujours mes communications avec Maxime. Puis là, ben tranquillement, ben ça a été la chance d'avoir une équipe en place qui est exceptionnelle au travail. Puis c'est aussi, moi, le lâcher prise, c'est de faire confiance, c'est de dire, regarde, ces gens-là sont au sein de l'entreprise, ils s'y consacrent, puis ils sont capables. Fait qu'il y a des choses que des fois, on le fait même aujourd'hui dans le quotidien, puis tu dis, tout le monde serait capable de le faire, là, mais tu leur prends sur toi, Mais non, là, c'est le temps de déléguer, puis c'est le temps de faire confiance, puis les gens se sont mobilisés autour. J'ai une grande chance. Jean est toujours présent aussi au sein de l'entreprise. Fait qu'on... C'est ça, chacun, on fait certains appels de dire qui va gérer tel dossier, à quel moment on va les transférer, puis comment. Communication claire, puis tout le monde comprend, les clients comprennent, bien qu'ils ne savent pas le tout là en arrière. Mais fait que ça se transfère comme ça, mais ça a été jusqu'à la fin, là, jusqu'au dernier week-end. Le week-end, l'opération s'est passée un lundi, mais jusqu'au vendredi, je travaillais autour de ça, puis de ça. Mais j'étais focusé, puis Maxime m'envoyait plusieurs choses qui étaient un build-up de. Puis je pense qu'éventuellement, en tout cas, si on est capable de partager ces clips-là ou ces vidéos-là, ou qu'il y a un des vidéos notamment qui disait l'importance de faire son lit le matin. C'est un gars de la marine, puis qui dit au moins tu vas réaliser une première action dès le moment que tu te lèves, puis ça va te permettre d'accomplir des petites choses pour éventuellement accomplir des grandes choses. Puis je m'accroche à ça. Max m'envoie une photo de son lit fait, tout ça. Fait que j'embarque là-dedans, puis c'est là que j'ai vraiment... je me conditionnais pour arriver à cette fameuse chirurgie-là. Puis C'est ça. Fait que ça a été moment intense, puis de focus surtout. Je pense que c'est le focus qui était là, de tout placer, tout mettre en place, puis de dire que ça va bien se passer, puis qu'on ça va bien aller. Puis moi, j'avais commencé à ce moment-là aussi à visualiser. Avec le build-up que Maxime m'a fait, je faisais pas juste écouter les vidéos, mais je les intégrais à ma routine, je les intégrais, j'y repensais, je visualisais mon arrivée à l'hôpital, je visualisais comment j'allais être habillé, la chanson que j'allais écouter dans l'auto, puis comment j'allais me rendre à la salle d'opération. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que quand je suis arrivé là-bas, j'avais pas de surprise ou dire, je m'étais fait un univers de dire... Je vais me présenter là-bas. En fait, ce matin, je vous ai fait un petit spécial. J'ai mis le veston que j'ai mis quand je suis arrivé à l'hôpital. Je m'étais choisi une chemise neuve. J'étais A1, puis j'étais prêt. Là. J'étais allé, j'ai accouché chez ma mère et ma soeur la veille. Quand ma conjointe embarquait dans l'auto, j'avais la musique que je voulais qu'elle soit qui joue ce matin-là, avec les paroles auxquelles je voulais entendre. Puis j'étais rendu invincible. Là. Puis je savais que un des enjeux, c'est que justement, il coupe, puis ça, il y a beaucoup de saignements. Puis je voyais mon rein. Tu sais, je voyais mon rein qui saignait pas. Je voyais. Puis tu sais, ça. C'est dur un peu, mais ça fait tellement de différence. Puis quand t'es dedans, c'est là que tu. Tu sais, j'ai jamais pensé en fait autant à me consacrer à quelque chose, puis autant mettre du focus, mettre de l'énergie, puis surtout y croire, parce que des fois tu peux te dire ah, là non là tu sais j'embarque pas là-dedans, mais tu choisis, c'est toi qui choisis en fait. Puis moi j'ai décidé d'y aller à fond pour me rendre là, puis m'organiser, puis me préparer. Fait que oui, il y a des affaires techniques de se dire qui va répartir le travail, mais c'est le côté mental qui fait tout là-dedans là, puis qui fait en sorte que tu te présentes là-bas, puis c'est ça. Ça fait, je pense, toute la différence.
T'as parlé du veston. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le processus de message texte, puis de ci, puis de ça, une des choses que j'avais envoyé à Alex, c'était une quote qui disait « Get up, dress up, show up, and never give up. » Puis ça, c'était quelque chose qu'on répétait constamment avant, mettons, les rendez-vous. Parce que, tu sais, mettons, Alex, c'était tout le temps dans l'anticipation de « Ouais, mais qu'est-ce qui arrive ici? » Puis j'étais comme « Non, on fait juste se pointer. Nous autres, notre job, c'est genre « Lève-toi, baie-toi, on y va. » Puis quand tu t'es pointé, je me rappelle encore, on est arrivé à l'hôpital, puis t'avais enlevé ton manteau, puis t'étais en soute. J'étais comme « Wow! » Tu sais, des fois, mettons, j'envoie des vidéos, j'envoie des textes, j'envoie ici, j'envoie ça. Mais de voir comme la réalisation de genre « J'y crois, puis... » Je me pointe là-bas avec l'attitude du gars qui s'en va comme tout défoncé. Je trouvais que c'était un signe tellement fort de genre je m'en vais pas dans le touriste, là, je me pointe pas. Tu sais, mettons, peu importe comment t'aurais été habillé, ça aurait rien changé là, sur le reste, là, mais mon point, c'est toi, t'avais décidé que pour te pointer là-bas, c'était pas des jogging, t'allais pas arriver, genre le dos rond pis tout ça. C'est comme non, t'allais arriver, genre prêt. Puis pour toi être prêt, c'était cette suite d'événements-là de je me lève, je mets mes. Tu sais, j'ai préparé mes chansons, je me suis acheté une chemise avec tel veston. Quand je m'habille de cette façon-là, je me sens bien, je me sens hot, puis on s'en va à guerre, puis on s'en va gagner. T'sais. Puis cette journée-là, ça s'est super bien passé. T'es arrivé à l'hôpital, ils t'ont préparé, t'es allé à la salle d'opération. Moi, j'étais là avec Marie, ta conjointe, puis on attendait. Puis à un moment donné, le chirurgien est arrivé, puis il a dit « Ça s'est super bien passé, il devrait se réveiller dans une couple d'heures. » Je pense que l'opération avait duré grosso modo une heure. Puis après ça, ben cette partie-là était faite, puis on avait réussi à passer à travers l'espèce de... Tu sais, entre le moment... où tu as appris que tu avais une masse, jusqu'au retrait de la masse. Cette période-là était faite, mais on n'avait aucune idée. Ultimement, on a tout fait ça, mais on n'avait aucune idée. C'est la masse que c'est...
C'est-tu un kiss?
Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis, pas longtemps après, parce que, bon, une fois qu'ils ont enlevé ce qu'ils avaient enlevé, ils l'ont fait analyser. Puis, c'est le 27 novembre, donc 3 semaines à peu près plus tard, que tu as eu le fameux résultat.
Ouais, fait que j'ai un, j'ai un message, en fait, je discute avec ma néphrologue, puis elle a réussi à avoir obtenu les tests, puis elle a dit, bon, ben, faut que je te dise que c'est un cancer, tu sais. Puis c'était comme un soulagement parce que je l'avais pu, puis c'était pas répandu, c'était localisé. Mais en même temps, ça fesse parce que tu te rends compte que ben t'as eu un cancer, que c'était là. Fait que ça marque quand même, mais on a fait les bonnes actions, on a pris les bonnes décisions, puis ça amène à un dénouement positif là-dedans. Mais une chose, puis je veux juste revenir là-dessus parce que ça aussi, ça m'avait marqué quand je me suis pointé en veston, c'est que Maxime, dès le début, il me disait « Perception is reality ». Puis j'étais comme c'est vrai, tu sais, puis fait que j'ai dit je veux pas que mon esprit en doute, je veux pas, tu sais, fait que c'était de le montrer puis de dire voici, tu sais, je suis prêt. Puis ça m'a, je me l'ai répété souvent puis je me le répète encore aujourd'hui, ou que c'est ça en fait la vie, les gens, tu sais, c'est des perceptions, puis les gens apprennent pour la réalité. Un autre aspect, c'est que juste le samedi avant l'opération, j'étais allé souper avec Marie. Parce que le lundi, c'était l'opération. Puis c'est là que tu vois que les tu sais, quand on se disait, on ouvre le sujet, puis le vrai monde se révèle. J'ai un cousin que je suis depuis toujours, tu sais, qui est quasiment un frère pour moi, tu sais, puis qui est un peu plus vieux, puis qu'on se parle, on niaise, fait toutes sortes d'affaires. C'est un cousin qui habite au Lac-Saint-Jean. Puis il m'appelle juste avant ce souper-là, puis il dit « Hey, Alex, je veux te dire, je le sais pour ton rein. Tu sais, on se parle de toutes sortes d'affaires pis ça, mais je m'attends pas. Il dit ouais, c'est ça, je n'ai parlé avec mon père, tout ça. Puis il dit à tes médecins que si jamais il y a de quoi, ben moi je vais te donner un de mes reins. T'sais. Fait que je suis comme waouh, là j'étais un peu sous le choc, tu sais. Je dis c'est parce que je sais pas quoi te dire, tu sais. Je te remercie. Sais-tu ce que ça veut dire? Ou tu sais, moi c'est clair, là, je te donne un rien. Fait que on dirait que ce backup-là m'a dit wow, OK, je suis blindé, là, tu sais, mon mental est top, j'ai tout arrangé. Lui vient de me dire qu'il me donnait un de ses reins. Tu sais, je suis comme, tu sais, puis là tu dis wow. Fait que puis tout ça, en tout cas, je sais pas comment ça serait concrétisé, puis on n'est pas venu là pantoute, mais c'est ça, tu sais, c'était une soupape de plus, puis là, j'étais comme, quand je suis rentré là, lundi matin, je dis, tassez-vous, tout le monde va me faire opérer, puis go. Fait que, c'est ça, je pense que ça donne un vrai sens des gens, c'est vrai, le vrai monde, la réalité aussi, là, la réalité, c'est que c'est pas rose. Fait que c'est ça, je voulais au moins, je pouvais pas passer ça sous silence quand même. Fait que,
puis je pense ouais. Que c'est venu de l'ouverture et d'en avoir parlé, comme tu dis, de partager malgré que justement c'est pas rose, mais de partager ce que tu es en train de vivre, ça le permet à d'autres personnes aussi de s'ouvrir, tu sais.
Ah ouais. Puis ça prend beaucoup d'humilité, puis ça, tu sais, les gens ça tente pas, là, tu sais, de parler des problèmes. Tout le monde parle, ça va bien, puis ah non, c'est pas ça la réalité. Guess what? C'est le bordel à la maison. Guess what? J'ai un cancer. Guess what? T'sais, fait que c'est ça la vie, là. C'est pas arrêter de. T'sais, fait que faut peut-être les parler avec le bon monde, les gens avec qui on est en confiance, mais la balle revient plus souvent qu'on le pense. Puis les gens vivent des choses aussi importantes. Fait que c'est ça, on reçoit. C'est ça. Fait que le 27. On a reçu ça, puis j'étais déjà bien chez ma sœur, chez ma mère, puis c'était période de réadaptation, puis le médecin, le premier médecin que j'ai vu, tu sais, avec qui on avait fait de l'échographie, il disait, ah, dis-tu, oh, ça va bien se passer, puis lui, il était très positif, mais puis là, quand je l'ai appelé, il dit, ouais, je dis, tu m'as pas dit que ça faisait mal à ce point-là. Il dit, non, non, il dit, je t'ai pas dit cette partie-là, c'est pas grave. Il dit, puis c'était quand même une opération douloureuse, là, tranquillement, puis tu te rends compte aussi à quel point on est chanceux de pouvoir se lever le matin, de manger ce qu'on veut, de pouvoir juste boire de l'eau, de marcher jusqu'à la douche, des choses que en réadaptation, tu te dis, tabarouette, pas facile.
Ça remet en perspective, hein?
Ouais, ouais.
Parce que tu avais une machine aussi, puis tu sais, mettons, ceux qui se font opérer ou qui restent alités pendant un bout vont savoir de quoi on parle. Une espèce de machine qui te... pour respirer.
Ouais.
En fait, qui est comme un truc pour, je pense, faut, c'est soit qu'il faut que tu souffles ou que tu aspires.
Ouais.
Pour pouvoir, dans le fond, stimuler les muscles au niveau de la cage thoracique parce que, bon, exactement. Parce que sinon, tout ça s'atrophie puis tu deviens plus capable de prendre des grandes inspirations. Puis c'est le genre de choses auxquelles on pense tellement pas. Parce que, ben, tu sais, tu vis ta vie, tu respires, ça se fait un peu tout seul. Mais que, à partir du moment où t'es arrêté pendant pas si longtemps, parce que t'as pas été couché dans ton lit pendant un mois, là. T'as, t'sais, mettons, t'es resté à l'hôpital quelques jours. Après ça, t'es revenu chez vous. T'étais quand même capable un peu de te déplacer. Mais je me rappelle que ta petite affaire avec la balle, elle levait pas au début.
Non.
T'étais même pas capable de la faire lever. Puis tout ça en l'espace de quelques jours. Fait que la réadaptation, le fait de prendre du temps pour toi, de laisser les gens autour de toi s'occuper de toi.
Ouais.
Puis après ça, ben finalement, tranquillement, tu reprends du poil de la bête, puis tu reviens à ta vie normale, à, comme tu sais, comme après, tu sais, tranquillement, c'est ça l'objectif. T'as été arrêté combien de temps? Te rappelles-tu?
C'était vraiment 6 semaines. Là.
Vraiment un bon 6 semaines.
De mémoire, puis je voulais le prendre, puis je me suis dit, c'était aussi du temps pour moi. Fait que, puis l'affaire là-dedans, tu sais, c'est fou, hein, mais je repassais les tests tranquillement pour me remettre, puis ma fonction rénale est revenue plus belle qu'elle était auparavant, tu sais, puis le néphrologue, puis là, le chirurgien, tu sais, dans les premières rencontres, Wow, j'ai fait une bonne job. Wow, c'est carrément, mais puis tu sais, fait que tu vois des fois, moi ça a toujours été une des mes plus grandes craintes. Puis je sais pas si c'est parce que je me suis fait opérer jeune, mais je voulais plus repasser, je voulais pas avoir d'opération. Là, c'était une phobie. Puis évidemment, ben c'est ça qui est arrivé. Puis évidemment, je me suis fait opérer. Puis ça s'est bien passé. Mais fait que tu vois que tout revient. Puis finalement, ça se règle. Puis ça se règle très bien. Aujourd'hui, une fonction rénale encore mieux. Puis qui est très très autonome par rapport à des gens qui ont deux reins. Puis oui, là, c'était de revenir, puis je me suis décidé de me gâter. Donc, je me suis acheté des choses. Je me suis acheté une motoneige que je rêvais depuis plusieurs années. Puis je disais, c'est jamais le bon moment. Puis profiter d'autres choses. Puis je me suis dit, regarde, c'est maintenant. Puis ça me tentait. Fait que ça me fait profiter, puis de pas attendre, puis de foncer quand il y a quelque chose de le régler aussi. Puis, ça a été beaucoup de choses, mais j'en dégage beaucoup personnellement, là, tu sais, ça a été un moment marquant. Puis, oui, c'est de reprendre tranquillement les choses, mais tu vois tellement comment tu récupères à chaque semaine, chaque jour, même à un certain moment, tu dis « Wow, je suis capable de faire ça, wow, je suis rendu là, beaucoup moins fatigué, les enfants, tranquillement, j'incorpore la routine des enfants ». Fait que c'est ça, ouais, ça c'est bien.
Tranquillement, au bout de ton 6 semaines, ben là, t'as pu être prêt pour... Parce que là, tu sais, on a commencé à parler tantôt de ta mère qui avait vécu son opération puis qui vivait une étape ou une épreuve un peu similaire, qui, au final, a commencé sa chimio le 15 décembre. Donc, fait que là, c'est bizarre un peu le parcours, dans le sens où on a créé ensemble un certain build-up, puis tout ce qu'on a pratiqué ensemble a pu être réutilisé ou testé rapidement avec ta mère, ou est-ce que là, ben, t'avais l'opportunité de la soutenir dans son épreuve, étant donné que la tienne était comme rendue sous contrôle. Fait qu'elle a amorcé sa chimio 15 décembre, à peu près 6 semaines après ton opération.
Ouais.
Chimio qui s'est, somme toute, très bien passé.
Ouais.
Épreuve quand même, faut le mentionner, là. Puis ultimement, ben, elle s'en est sortie. Puis cet épisode-là qui a duré un peu plus que 6 mois, mettons, 9 mois peut-être, a resserré les liens de... Autant, mettons, famille, amis,
ben oui.
Puis de ce, dans le fond, la suite. Là.
Ah, c'est clair, c'est clair. C'est des choses... tu vois, les gens vivent des choses pas faciles, puis on se soutient, on se dit vraies choses. T'essayes pas de te cacher ou de quoi que ce soit. Ça, c'est sûr que ça rapproche beaucoup. Je pense pas tout le monde qui a la chance de s'en sortir aussi comme ça, fait que d'être reconnaissant par rapport à tout ça, au dénouement. On dirait que quand t'es dans tempête, on dirait que quand il y a quelque chose, là, tu rentres, tout arrive, là, tout déboule, on dirait que ça n'arrêtait plus. Puis là, tranquillement, ben, on avait un souffle, puis la famille s'est resserrée, la sœur de ma mère l'a beaucoup aidé, l'a beaucoup soutenu, ma sœur aussi, donc c'était... Non, c'est ça, ça a permis tout le monde de se tenir, puis tranquillement de passer à autre chose, puis... Fait que c'est une bonne... ouais, ben, ça se termine bien dans l'ensemble, puis en rémission aussi, je pense qu'il y a un certain délai, mais on fait les suivis, puis... Tu sais, ce que je disais souvent à ma mère, à Sylvie, je dis... Tu sais, c'est pas de savoir si on va avoir le cancer ou non, l'enjeu, c'est de savoir quand tu vas l'apprendre. Parce que ce timing-là est super important. Puis aujourd'hui, le cancer, il est beaucoup plus répandu qu'il l'était auparavant. Fait que ça dépend juste le stade que tu vas pouvoir le détecter, puis tu vas le traiter. Tu sais, des gens qui sont un peu plus dans le déni, qui attendent. Non, c'est là, on le règle là. Fait que je pense que c'est plus ça la notion. De se dire, garde, tu l'as eu à temps. Oui, là, c'est toute qu'une guerre, là, puis c'est toute qu'une épreuve, mais crème aujourd'hui. Tu vois tes petits-enfants, on est tous assis autour de la table. On l'a tous su à temps, on l'a tous détecté à temps. Moi, je considère que j'ai gagné à la loterie. Tu sais, coordonnatrice de qui je suis très, très près, qui est très humaine, m'a fait prendre cette décision-là, puis... J'ai comme tiré le bon billet dans tout ça, là. So, peut-être aujourd'hui, je serais en dialyse puis que je serais pris avec d'autres choses, mais non.
Oui, sans ce rendez-vous médical-là que tu as pris pour te gâter.
Ouais. Pas que tout le monde qui se garde de la même façon, là, mais...
Quand t'as dit moi, ça tantôt, ça. Là... Je sais que moi, je me garde pas de même, mais je pense que je prends des notes.
Ouais. Alors, on dépense tellement pour toutes sortes de choses. On va au resto, on fait le party, mais la santé en arrière... Tu sais, moi, c'est médicalement, mais je pense de prendre soin de toi, d'aller au gym, de s'équiper, c'est pas grave, là, c'est ça qui nous fait fonctionner, puis des fois, je pense que ça passe un petit peu, on passe à côté de ça, fait que c'est ça, c'est juste des priorités différentes, là, mais c'est ça.
Fait que cet épisode-là est derrière, t'as pu reprendre... ta vie normale, ta vie d'avant. Mm. Puis, quelques temps plus tard, après avoir tout fait ça, bon, t'as repris les rênes de l'entreprise, t'as poursuivi dans ce que t'avais amorcé. Puis parle-nous de ce qui est arrivé par la suite.
Ben oui, des belles nouvelles où que l'entreprise, je reprends un peu plus l'entreprise, continue à bien aller... On fait des résultats très intéressants puis tout ça, puis on se fait finalement courtiser par une autre organisation, des belles discussions, la possibilité d'avancer aussi dans ma carrière, d'être bien entouré, puis il y a un an, donc on a joint Raymond Chabot. Raymond Chabot qui fait du recrutement de cadres également, qui a une belle équipe, donc une plus grande équipe, qui ont des mandats très diversifiés aussi, possibilité d'une belle collaboration. Donc, on décide de faire le saut. Jean, moi, ça lui rencontre certains ses objectifs. Puis moi aussi, moi qui veux toujours grandir, qui veux m'épanouir dans mon rôle, d'être challengé. Fait que c'était l'occasion de ça. C'est sûr, moi ça a été c'est une super opportunité. Puis pour Jean aussi, c'est ça, c'est un deuil aussi, c'est son organisation là, qu'on intègre à Raymond Chabot, mais en même temps on voyait beaucoup de bien pour moi aussi ce qu'on voit du moyen long terme. C'est super super intéressant. Fait que tu vois que tu sais le positif s'aligne aussi de ce côté-là, puis permet d'avoir d'autres choses, de grandir en tant que personne, en tant que professionnel aussi, ce qui était toujours important pour moi, puis qui l'est toujours. Je me suis inscrit à la maîtrise, donc je continue à faire des choses qui m'intéressent puis qui me challenge, puis qui permet de poursuivre mon évolution, puis puis d'avoir aussi du fun là-dedans. Fait que c'est cool quand même. C'est un bon dénouement. Fait que on garde un œil là-dessus, mais toujours en sachant que je m'entraîne toujours autant, je me garde du temps, je me libère du temps pour ça, puis permet de créer des liens aussi, créer des liens avec les chirurgiens, les médecins, ma néphrologue, on se discute, on jase, tu sais, fait que ça
resserre. Parce que c'est pas juste des professionnels,
non.
Des humains en
arrière
de ça qui peuvent faire plus ou amener la discussion à un autre niveau, là.
Ouais, tout à fait. Ouais, effectivement. Puis ils envoient puis tout ça, là. Les autres, c'est leur pain puis leur beurre, là. Quand t'arrives dans la salle d'opération, le monde se jase des spéciaux du Costco, puis le monde dit comme hey, il va être opéré, ouais, attasse-toi là, ça va bien aller.
Ben, c'est leur quotidien. Oh, ouais. C'est leur quotidien. Ouais.
Je me rappelle, le chirurgien est arrivé en vélo, je pense, ou proche, il dit hey, ça va-tu? Je dis hey, oui, là, tu sais, t'es en jaquette, puis tout ça. Fait que c'est drôle, ça donne une autre notion de c'est leur job. Puis tu sais, je me rappelle, ouais. Max, je pense qu'il avait descendu, il mangeait à la cafétéria, puis
ouais, ça s'était bien passé. Juste à côté de nous autres, ah, puis il parlait du cas, mais il savait pas qui j'étais. Ouais. Il est comme, ah non, ça a bien été, puis tout ça. Puis, fait que j'ai eu des nouvelles de manière officieuse avant d'en avoir de manière officielle, c'était son temps de dîner.
Ouais.
Alex, si les gens veulent t'écrire ou quoi que ce soit, ou entrer en contact avec toi, y a-t-il une façon simple qu'ils peuvent le faire?
Ouais, moi je pense par LinkedIn, c'est la plateforme que j'utilise le plus, là. Ça peut être professionnellement ou personnellement. Puis c'est ça, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Ça va me faire plaisir d'échanger, faire plaisir de c'est ça, de
redonner.
De redonner, ouais, c'est clair. C'est la clé. Moi, je pense là-dedans, à travers tout ça, tu sais, il y a le côté personnel, professionnel, mais c'est sûr qu'il y a vraiment des gens qui décident de marquer, qui décident. Tu sais, je pense, moi, mon père, j'ai jamais été le plus expressif au niveau personnel, mais quand je me suis réveillé le lendemain matin, il était assis au bout du lit, il lisait son livre. Je suis « tabarouette, tu sais, OK, c'est cool. » Puis ça m'a marqué. Ma sœur puis ma mère qui ont pris ça en charge malgré tout. Puis ma sœur qui était une taxi, je pense, pendant je sais pas combien de semaines, puis qui s'est dévouée, puis qui a arrangé ma chambre, ma mère. Tu sais, fait que tu vois, le monde se mobilise. Là, je l'appelle ma coordonnatrice, mais je l'appelle jamais de même. Mais elle m'a fait faire de la méditation, puis qu'elle m'a amené ailleurs sur la perspective de la vie, puis comment ça devrait être, puis que c'est pas toujours comme on pense. Fait que tu vois que chacun s'est révélé, mon cousin qui m'appelle, mon ami qui décide d'aller marcher. Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup à tirer de ça. Puis évidemment, l'amitié de Maxime, tu sais, je pense que tu peux pas savoir à quel point que les gens peuvent décider de te donner un certain point, qu'une personne que j'ai rencontrée en secondaire 2 décide de littéralement te sauver la vie, tu sais. Puis moi, j'ai pas peur de le dire comme ça parce que ça a été ça. Tu sais, je sais pas éventuellement comment je me serais ramassé, dans quel état, mais c'est un don. C'est un don de soi. Puis moi, je voulais profiter justement de la tribune pour te le mentionner, te remercier. Puis je pense que les gens qui t'entourent ont beaucoup de chance. Puis doit faire peur d'écoute parce que t'es quelqu'un de franc, t'es quelqu'un qui dit leur juste, puis... Puis je pense qu'il y a beaucoup à retirer de tes interventions. Puis d'ailleurs, pour poursuivre notre relation, ben j'avais demandé à Maxime d'être parrain de mon plus jeune. Puis Maxime a accepté. Fait que ça crée des liens qui sont au-delà de l'amitié. Fait que c'est quelque chose, puis je voulais te le mentionner. Puis je pense la reconnaissance. Reconnaître tes pères, tes amis, ta famille, mais reconnaître aussi que... le matin, ben t'as la chance de te lever, t'as la chance de faire ce que t'aimes. Puis c'est important aussi de s'arrêter pour prendre acte. Fait que c'est ça, je voulais au moins pouvoir clore là-dessus.
Merci Alex, très très apprécié. C'est déjà tout pour cet épisode avec Alexandre. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé notre sujet du jour, la discussion, on va vous inviter à la partager. Il y a assurément d'autres gens qui passent actuellement par des événements qui sont pas nécessairement la même chose, mais qui peuvent être similaires, qui ont des défis. Si vous en avez, je vous invite à en parler. Et si vous n'avez pas de défi particulier, ben je vous invite à ouvrir vos oreilles et être là pour ceux que vous aimez et qui vous aiment.
On est partout sur iTunes, Google Podcasts, Spotify. Vous pouvez interagir avec nous sur Facebook et Instagram. Puis je voudrais juste aussi remercier vraiment pour la belle discussion. J'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui parce que ça me touchait vraiment que tu prennes le temps de venir nous parler ce matin, puis c'était vraiment apprécié, merci.
Ouais, merci. Tout ça est supposé d'être très positif, là.
C'est très positif.
On retire quelque chose de bien, j'imagine.
je retire énormément de positif. C'est juste touchant de voir... Je pense que j'ai juste aussi beaucoup d'empathie pour toi puis les personnes autour de toi, puis je pense que c'est pour ça que ça me fait aussi réagir comme ça, juste de peine. Puis ça me fait penser à d'autres choses, puis à des situations, fait que ça me rend bien émotive. De toute façon, nos auditeurs sont habitués à ce que je pleure, fait que...
OK, c'est une habitude, on close de moi.
C'est pas rare que je pleure.
C'est rare qu'on close là-dessus, mais c'est déjà arrivé.
Non, ben je pense, puis tu sais, je l'ai pas tout à fait aussi mentionné, mais tu sais, ma conjointe aussi, là, c'est parce qu'on est proches, puis on vit ça, mais... C'est important d'avoir ce soutien-là, puis elle a toujours été là, là. Fait que je voulais aussi le mentionner, ou que ça a l'air un peu plus acquis, mais ça a été la gardienne un peu plus de la famille, mm-hmm. puis t'es très, très forte là-dedans. Fait que tant mieux, tu sais, si ça peut nous faire réfléchir, faire des liens. Je pense que le podcast, votre podcast, sert à ça aussi à quelque part.
Clairement. On vous invite à nous visiter sur aucunhasard.com. Dans le haut, on a une petite bannière si vous voulez nous soutenir, être membre de notre Patreon. Donc, pour quelques dollars par mois, vous allez avoir accès à du contenu exclusif. On va d'ailleurs poursuivre la discussion avec Alexandre pour nos souteneurs. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez le faire directement à maxime@aucunhasard.com.
Et moi, najomi@aucunhasard.com. Rappelez-vous, vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard. Sur ce, on vous dit à bientôt.
Bye!
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 Pour entendre la suite de la discussion, retrouvez-nous sur notre Patreon.